Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Voilà, donc, bienvenue à cette émission qui traite directement les différents aspects des abus du pouvoir et des injustices dans notre société d'aujourd'hui. Un regard, bien sûr, critique à l'égard des agissements illégaux de certains fonctionnaires détenteurs de l'autorité du pouvoir. Nous sommes critiques forcément, mais constructifs, puisque notre but principal, autant que citoyen avant tout, c'est d'envoyer des messages constamment à nos institutions politiques, aux dirigeants, à ceux qui ont accepté de porter le fardeau de la responsabilité de cette société. Et les mettre au courant, donner le score de la réalité vécue par les citoyens, sachant que le terrain et la plateforme publique ne les appartient pas forcément. Donc la distance et l'écart jouent à notre faveur, puisque nous sommes une partie prise du réel. Aucun intérêt ou attente, sauf celui de participer activement en tant que citoyen, militant à ce grand projet collectif d'une reconstruction possible de cette société. N'écoutez pas, surtout, il ne faut pas écouter ceux qui disent et répètent que tout va bien dans cette société. C'est faux. La réalité, le vécu et notre expérience nous dit tout à fait le contraire. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant du mouvement Action Justice, un organisme de défense des droits de la personne, mandaté pour faire la surveillance des institutions judiciaires. Écoutez, c'est dommage aussi que nous n'avons pas tous les moyens nécessaires afin d'accomplir cette tâche et peut-être, et pourquoi pas, aboutir à nos objectifs. Donc, avant de vous présenter notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler, chères auditrices, chers auditeurs, et comme vous êtes sûrement peu ou très peu informés, qu'un individu, un citoyen résident du quartier Rosemont, est abattu dans la nuit de mardi de cette semaine par une agente de la SPVM. Comme d'habitude, l'agente du service de la police de Montréal, qu'on ne connaît pas son nom jusqu'à présent, aurait senti sa vie menacée. Selon la Sûreté de Québec, ce qui lui a accordé le droit absolu de faire feu et abattre ce citoyen. Écoutez, c'est toujours le plus drôle et le plus théâtral dans cette nouvelle histoire, ce que la policière qui a abattu Jean-Claude, si je ne me trompe pas, c'est le nom de la victime, celle qui a abattu donc cet individu dans la nuit du mardi à mercredi cette semaine, était transportée à l'hôpital. Pourquoi ? Pour un choc nerveux. Écoutez, la presse nous apprend aussi que la policière a tenté de calmer l'individu. Et puisqu'elle n'a pas réussi, donc elle a préféré, soi-disant, sous la menace, faire feu. Je la comprends très bien, c'est plus facile de faire feu que d'aller chercher d'autres méthodes pour épargner la vie de l'individu. Donc il est de plus en plus clair que le citoyen dans cette société n'a aucune importance aux considérations. Si vous sentez que votre vie est menacée, tirez, point à la ligne, et pas n'importe où, visez le cœur, le thorax, il ne faut pas rater votre cible. Mais d'où vient cet enseignement, vient-il? Vous savez tous que c'est le mot-clé pour justifier un tel geste meurtrier. Il suffit que l'agent ou l'agente qui a commis ce geste irréparable de mentionner qu'il aurait senti sa vie menacée. Et tout rentre dans l'ordre. Chaque fois qu'un citoyen est abattu par un policier, nous avons la même version. Vous pouvez vérifier vous-même. Toutes les versions sont semblables, identiques. À partir de cette version, déclenchez, si vous voulez, une enquête de la SQ, de mon cul, d'une enquête publique, une enquête du diable, rien qui ne pourrait incriminer en quoi que ce soit le policier ou la policière impliquée. Elle aurait senti que sa vie est menacée. Vas-y, vous ou qui que ce soit, vérifiez s'il s'agissait d'un moment de panique, d'une lâcheté inappropriée à la fonction, une perte de contrôle, une peur atroce. Et combien je peux vous citer d'autres? On se rappelle tous du cas de Jean-Loup Lapointe, celui qui a abattu Freddy Vigneova en 2008, Il a utilisé la même formule pour sa défense. La clé, le passe-partout en urgence dans de telles situations. Et j'aurais plutôt senti ma vie menacée. Point, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça, quoi. Mais attention, chère auditrice, chère auditeur, suivez bien ça. Il répétait ce que tous les autres agents de la SPVM qui ont abattu des citoyens. Il aurait lui aussi senti que sa vie et celle de sa collègue étaient menacées. Alors que sa collègue, l'agent Stéphanie Lepilote, nous disait dans son témoignage que non, en aucun moment j'ai senti que ma vie était en danger de mort. Son témoignage nous apprend davantage. Elle n'a d'ailleurs ni déguiné son arme, ni même pensé à le faire. Deux policiers devant le même incident, nous avons deux réactions complètement différentes. Une vraie policière qui possède les critères et les conditions pour un tel recrutement et une telle fonction, et un autre en face qui n'a malheureusement aucune qualification sur le plan personnel pour l'être. Voilà que son engagement dans le corps policier devient un danger pour la sécurité publique. Regardez les statistiques. Hein. Ceux qui sont impliqués dans les morts d'hommes sont tous des jeunes policiers. Hein. Ou policière. Très rare de voir un policier d'expérience et d'âge sage avoir commis un tel crime. Et rapidement, le journal nous apprend que l'individu avait des antécédents en matière de violence. Quelle violence ? Conjugale, mesdames, messieurs. Une panne d'amour, une séparation difficile, un cœur qui se brise suite à une fin d'amour tragique, peu avec la personne amoureuse, hein. Mais est-ce que, pour cela, il mérite d'être abattu ou d'être éliminé? Moi, personnellement, je ne le pense pas. La seule chose dont je suis certain que cette mort a pu encore être évitée. Écoutez, chère auditrice, chers auditeurs, nous allons sûrement consacrer une émission sur la mort de cet individu, possiblement, si j'aurai des témoignages, la semaine prochaine. Si vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au 514-273-4302. Je répète, appelez-nous au 514-273-4302. Cette tribune, mes chères auditrices, chers auditeurs, vous appartient. Mais finalement, la question qui reste et qui demeure inquiétante, combien d'enquêtes publiques inutiles et coûteuses déboursées par vous, chers citoyens? Combien faut-il pour arriver à transmettre le message aux responsables afin de réévaluer qui peut être policier ou non? Est-ce que chaque fois qu'un citoyen porte dans sa main une cuillère, un couteau de cuisine, une fourchette, un stylo qui brille de loin, chaque fois qu'un citoyen est dans un état d'ébriété ou en détresse pour X raison, on va l'abattre? Nous ne devrons pas remettre en question cette défense trop facile. J'aurais senti ma vie menacée. Cette phrase est devenue une menace réelle à notre sécurité, nous le public. Nous allons faire une pause musicale et nous revenons à notre sujet d'aujourd'hui, rendre hommage à une personne qui œuvre depuis très longtemps pour éradiquer le racisme de notre société, un travail qui n'est pas toujours facile, hein. Et ainsi que nous aurons l'occasion de faire un petit tour à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, afin de connaître le succès ou l'échec de cette institution, un autre sujet important auquel je vous invite, mes chères auditrices, chers auditeurs, de participer, puisque nous travaillons sur une émission qui traite du sujet. Et si vous avez eu une expérience bonne ou mauvaise avec cette institution, veuillez nous appeler, afin de livrer votre témoignage au même numéro toujours, donc c'est le 514-273-4302, 514-273-4302. 4302. Restez à l'écoute, nous allons être avec vous après quelques minutes.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinés à assurer sa protection et son épanouissement. Tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et en droit à une égalité ou à une égale protection de la loi. Le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix. Les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général. Les libertés et droits fondamentaux de la personne doivent être garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation. C'était quelques principes de la Charte des droits et libertés de la personne. Est-ce qu'on peut considérer ces principes comme une loi? Définitivement, oui. C'est une loi adoptée par l'Assemblée nationale du 27 juin 1975 et entrée en vigueur le 28 juin 1976. Une loi fondamentale, car aucune disposition d'une autre loi ne peut être contraire à certains droits qui sont énoncés soit les droits fondamentaux, les droits politiques, les droits judiciaires et les droits à l'égalité. La charte alors reconnut que tous les individus sont égaux en valeur et en dignité, sont tous donc tenus dans les rapports sociaux de respecter les droits et libertés d'autrui. Vous comprenez que l'exercice des droits et libertés de chacun est parfois limité par les droits et libertés d'autrui. Pardon. Mais ce qu'on peut retenir, l'essentiel de que tout être humain possède des droits et libertés destinés à assurer sa protection et son épanouissement. Et tous sont égaux en valeur et en dignité. C'est ce qu'affirme justement la Charte des droits et libertés de la personne. Et voilà ce qui a réveillé justement les soupçons de notre invité cette semaine, M. Fonimi, dès son jeune âge, de s'intéresser à la question de la dignité et du respect de l'être humain. M. Fonimi, donc, diplômé en travail social de l'Université de McGill, encore de sciences politiques de l'Université de Concordia, spécialisé dans l'activisme judiciaire et les mouvements des droits civiques aux États-Unis et au Canada, M. Fonimi devient rapidement le cofondateur depuis 1983, puis directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales. On parle le CRAR, un organisme sans but lucratif pour les droits civiques basé à Montréal. Voilà que le voyage de ce personnage au sein de cette société devient de plus en plus intéressant. Aider et représenter des victimes de discrimination n'est pas une chose facile. Mais M. Fonimi croit sincèrement et depuis longtemps que son engagement apportera un de ses jours des fruits souhaités. Écoutez, nous l'avons rencontré dans son bureau, donc il nous a accordé cette entrevue que vous allez l'écouter dans un instant. Mais je profite toujours de vous rappeler que si vous avez une expérience avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et si vous souhaitez nous faire part, veuillez nous appeler à cet effet et vous serez toujours la bienvenue dans cette émission. C'est seulement à travers vos témoignages, chers citoyens et citoyennes, qu'on arrive à réévaluer les efforts et l'efficacité de cette institution. Vous demeurez toujours le miroir par excellence afin de redresser l'image. Nous allons faire une petite pause musicale et nous cédons la parole à monsieur, ou plutôt on va céder directement la parole à monsieur Fonimi qui va nous parler de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Son rôle, son efficacité, a-t-elle une utilité ou c'est mieux de l'abolir? L'abolir comme d'ailleurs c'était le cas dans d'autres provinces canadiennes. Écoutons.
Le CRAR, c'est un organisme sans but lucratif qui a été créé en 1983 pour lutter contre la discrimination raciale en particulier et de plus en plus contre toutes les formes de discrimination parce qu'il y a beaucoup de relations entre les diverses formes de discrimination. Et nous défendons les droits des personnes, des victimes de discrimination devant les organismes de défense des droits ou devant les tribunaux. Nous faisons aussi la promotion de la diversité ethnique et toute forme de diversité de plus en plus. Et essentiellement, nous sommes un organisme qui est basé à Montréal, même si nous avons des collaborateurs et des antennes dans d'autres grandes villes canadiennes et de plus en plus dans des villes américaines.
Mais vous votre combat, M. Fonimi, vous avez commencé depuis quand?
Personnellement, j'ai commencé depuis l'âge très jeune, même au collège, au cégep en particulier, parce que c'est quelque chose qui reflète un peu les valeurs personnelles. Et avec une formation au travail social, la notion de justice sociale, c'est quelque chose qui m'est très importante. Et j'ai pu, avec d'autres collègues, participer à la création de l'organisme afin de lutter pour la justice sociale. En bout de ligne, parce que la lutte contre le racisme est essentiellement une lutte pour la justice et l'équité sociale.
Mais c'est pas un cas c'est pas vous qui avez passé par une mauvaise expérience ou non, pas du tout là. Ce combat-là, il vient depuis très longtemps de vous-même ou c'est des idées qui sont développées au cours de votre carrière ou de vos études quoi.
Non, il y a des choses qu'on a vécues dans son enfance, dans sa jeunesse, qui nous ont marqués. Et puis, je pense que l'un des incidents qui m'ont marqué le plus, c'est quand je faisais le voyage à travers le Canada en voiture. Et vous savez, plus vous en allez dans l'Ouest, plus vous ressemblez à un autochtone. Oui. Et plus vous serez traité de manière très très évidente, très 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 désobligeant, très méprisant, très très raciste, surtout dans les petits villages. Quand vous ressemblez à une autochtone, je crois que c'est là qui m'a vraiment fait sursauter au fait que au Canada le racisme est beaucoup plus tranquille, il est plus subtil et c'est parfois beaucoup plus sournois, plus difficile d'identifier et de combattre cette forme de discrimination raciale quand elle est très très subtile. Contrairement aux États-Unis, parce que une partie de la famille est américaine et puis donc je voyais souvent aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez tout de suite où on vous veut et où et quand on ne vous veut pas.
Oui, c'est fait. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, c'est à partir peut-être, si on peut le dire, un choc comme ça qui vous a amené au plein bain. Et depuis ce jour-là, depuis votre combat et tout, là, vous êtes confronté à des cas. Hein, vous recevez des plaintes et tout de plus en plus. Pouvez-vous nous dire quelles sortes de plaintes que vous recevez et comment vous les traitez?
Ben, nous avons, depuis l'an 2000, nous avons vraiment développé un service à temps plein pour aider les victimes de discrimination. Au début, c'était limité à la discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique ou nationale, la religion, le statut de citoyenneté. Et jusqu'à maintenant, les plaintes ou les personnes qui viennent pour cette forme de discrimination représentent à peu près 80 ou 85% de nos cas. On ouvre à peu près une vingtaine de dossiers actifs par mois. La majorité de ces cas touchent l'emploi et l'autre partie, c'est les relations avec la police. Au cours des dernières années, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de Québécois et des anglophones de vieille souche qui nous appellent parce qu'ils vivent aussi la discrimination basée sur l'âge, le handicap, on voit de plus en plus à cause du vieillissement de la population, l'état civil, est-ce que vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes conjoint de fait, ainsi de suite, la condition sociale, l'état de pauvreté dans lequel les gens se trouvent, et l'orientation sexuelle, surtout dans les cas de crimes haineux ou de la violence haineuse. Donc on commence à travailler beaucoup sur ces questions qui touchent au-delà des minorités ethniques et racisées.
Mais Monsieur Fonumi, c'est un petit peu étrange, vous venez de dire qu'il y a presque 20 plaintes par mois, moi ça me semble un petit peu trop même. Est-ce que, par contre, on entend toujours que les politiques n'admettent pas qu'il y a du racisme ici au Québec, et au Canada surtout. Qu'est-ce que vous disiez à ça?
Non, je dois dire ça, on ouvre 20 dossiers à peu près. Okay? Oui. C'est-à-dire que souvent, ça reflète un quart du nombre de personnes qui nous appellent ou qui nous contactent. Oui. Il y a des gens qui nous contactent et puis qui ont décidé de ne pas aller de l'avant. Une raison, c'est parce que ça prend trop de temps. On leur dit tout de suite, ça peut vous prendre 2-3 ans avant d'avoir...
Ils se sont découragés, tu veux dire?
Ils se sont découragés. Il y a des gens qui disent, écoutez, on va laisser faire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes. Et puis on remarque que les jeunes, en général, n'ont pas le degré de patience nécessaire s'ils ne sont pas appuyés, surtout par leurs parents. Le nombre de plaintes que nous avons, de dossiers que nous ouvrons chaque année, c'est à peu près 130, 140 dossiers. Maintenant que ça augmente, les jeunes entre 18 et 30 ans représentent moins de 10% de nos clients. La plupart de nos clients sont entre 30 ans et 45 ans. J'ai presque aucune plainte de jeunes entre 18 et 30 ans qui touchent la discrimination dans l'emploi. Et juste pour vous dire qu'il y a peut-être un phénomène générationnel, oui, ou des manques de connaissances de la part de cette génération-là face à la question de la discrimination. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes qui nous semblent être de l'injustice, mais qui ne sont pas nécessairement la discrimination. Oui. Donc, surtout les questions de congé dimanche, on sent que c'est justifié. Donc, pour nous, on leur dit d'aller directement dans le travail. Et puis, les gens veulent aller toutes seules sans nous demander de les accompagner. Donc, c'est pas toujours... le nombre ne reflète pas l'état actuel au degré de problèmes qui existent au sein de la société actuelle.
Mais vous, M. Fonumi, vous êtes quand même bien placé pour dire que ce n'est pas vrai que les politiciens, ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils admettent réellement qu'il n'y a pas de racisme dans notre société. Est-ce que vous pouvez confirmer, mais dire comme quoi ce n'est pas vrai? Il existe et de plus en plus même.
Non, écoutez, un politicien qui dit qu'il n'y a pas de racisme dans cette société, on peut dire la même chose. Il ne peut pas, c'est comme dire qu'il n'y a pas de violence conjugale dans cette société. c'est pour dire que c'est qu'il n'y a pas de corruption dans l'industrie de la construction, par exemple, ça ne colle pas à la réalité actuelle. Le nombre de plaintes qui existent à la Commission des droits des personnes démontre maintenant les plaintes relatives au motif de race, de l'origine ethnique et de la religion constituent le nombre le plus élevé, le pourcentage le plus élevé des plaintes à la Commission des droits des personnes. Les motifs race et origine ethnique figurent maintenant au premier rang. Le deuxième rang, catégorie de plaintes, c'est les plaintes basées sur le handicap. Donc ça, c'est un indicateur, oui. Et ça, c'est seulement le point de l'iceberg, parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui porte plainte. On dit en général, pour ce genre d'injustice sociale, seulement à peu près 10% de personnes qui portent plainte.
C'est, ça, oui.
C'est comme dans le cas de la criminalité, il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte parce qu'ils n'ont pas de confiance dans la police, au système judiciaire. Oui. Donc il ne faut pas nier et il ne faut pas prétendre que ça n'existe pas.
Oui. Oui. Mais Monsieur Fonemi, si vous me permettez, c'est-à-dire nier ou ne pas admettre, c'est quand même, pensez-vous, vous la prenez pas comme une mauvaise volonté de la part du politicien, et autant que nous sommes toujours dans ce stade-là, il n'y aura pas une ouverture au niveau politique pour un change de regard.
Non, je crois qu'il faut préciser que c'est pas juste les politiciens qui réagissent de cette manière-là. Je crois que de plus en plus les dirigeants de l'opinion publique, même dans plusieurs médias, par exemple, on voit qu'il y a une attitude de très antagoniste ou très défavorable au droit à la personne et la notion de discrimination. Ok?
Oui. Ouais.
Vers les dards, le poids et la nuit, ma courbe et le dos. Ils arrivent le vendredi, de fouiller les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, aux reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en furant de peur. Les choses, et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi, et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur port, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port.
Quelle sécurité? Notre sécurité. L'usage accru par le gouvernement conservateur des concepts de sécurité nationale et de terrorisme afin de justifier la surveillance, la détention arbitraire, la déportation, les coupures dans le financement, l'implication dans la torture et la criminalisation de la dissidence ont réveillé l'intérêt pour établir un réseau s'opposant aux politiques de la dite sécurité nationale. C'est dans cet esprit que le réseau de la Commission populaire organise un forum de réflexion les 4, 5 et 6 février prochains dans le but de mobiliser les communautés affectées et de coordonner nos stratégies de défense. C'est donc un rendez-vous du 4 au 6 février à l'Université Concordia. Entrée libre, repas servi et service de garde offert sur place. Consultez l'horaire des activités au www.commissionpopulaire.org. www.commissionpopulaire.org.
Radio Centreville 102,3 FM ou www.radiocentreville.com. Captez tous les samedis à l'heure de l'équipe haïtienne l'émission Espace communautaire pour vous mettre à jour sur les divers événements et activités de la communauté à partir de 17h30 avec Gladys Demostène et Jean Rodnil.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Depuis 35 ans, nous représentons la diversité. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, nous allons faire une pause musicale et nous écouterons la suite de notre entrevue avec Monsieur Fonimi.
Plus que je bois, plus je
Donc voilà, rebonjour Monsieur Fonomi. On revient maintenant vers le volet de la commission des droits de la personne ici, en particulier à Montréal. Vous, vous êtes exposé à cet exercice, j'imagine, pour le quotidien. Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire? Est-ce que réellement la commission des droits de la personne remplit sa fonction et son rôle comme la charte le prévu, ou bien oui ou non, et pourquoi?
La commission des droits de la personne du Québec a été créée en 1976 pour mettre en œuvre le principe de la Charte québécoise des droits et libertés, qui est vraiment une loi presque unique au Canada. Et la commission a fait beaucoup de progrès dans plusieurs dossiers au fil des ans, vraiment des percées remarquables dans le droit, par exemple des personnes de pauvres vivant dans la pauvreté. Dans le cas du profilage racial, la commission a vraiment fait de travail très remarquable. Le dossier des travailleuses domestiques aussi, par exemple. Dossier plus récemment, on voit le dossier des médecins formés à l'étranger. Il y a aussi de tous les secteurs, par exemple, les clauses orphelins, les clauses discriminatoires dans les conventions collectives basées sur l'âge. Vraiment, la commission a marqué beaucoup de points importants au fil des ans. Là où la commission vit comme un défi vraiment majeur, c'est que je crois que d'une part, notre gouvernement ou l'Assemblée nationale n'accorde pas à la Commission les ressources suffisantes pour qu'elle puisse faire son travail de manière adéquate et efficace.
Vous pensez que vraiment c'est des ressources qu'il faut, et quand vous disiez des ressources, vous visez quoi?
Les ressources, par exemple, il faut avoir plus de budget et plus d'effectifs pour mener des enquêtes. Je crois que sur le plan de l'éducation, la commission fait un travail assez bien. Au niveau des enquêtes, il y a vraiment de sérieuses lacunes. On n'a pas assez d'enquêteurs. Nous avons des dossiers qui traînent. Et puis parfois, on a un dossier dans lequel on a attendu presque 7 mois pour qu'il y ait un enquêteur assigné au dossier. Oui. Donc il y a une pénurie de main-d'œuvre et de ressources, d'une part. Et d'autre part, les ressources aussi pour permettre aux professionnels, la commission, d'être formés et d'être plus à jour avec l'évolution de la jurisprudence ou des questions d'ordre social et économique. Parce que vous savez, les notions sociologiques changent, les notions juridiques changent.
Tout à fait.
Et à moins qu'on ait les moyens des financiers nécessaires pour le développement continu, il y a un problème. En plus de ça, s'il n'y a pas assez d'enquêteurs qui ont déjà chacun un moyen, une charge de dossier au moins 50 dossiers, et ça, n'oublions pas que la commission travaille sur l'échelle du Québec avec beaucoup de motifs de non-discrimination, donc c'est beaucoup de travail et des dossiers qui sont toujours complexes parce que les droits de personne, c'est pas juste juridique, mais c'est aussi socio-économique, c'est culturel, donc il faut des analyses très percutantes. Et on a vu déjà les limites de ressources de la commission au niveau de la compétence et au niveau de l'efficacité, ça veut dire la rapidité. Et dernièrement, je crois que à cause du manque de ressources, la commission ne porte pas autant de cas qu'elle juge de manière favorable devant le tribunal des droits de personnes, parce que la commission n'a pas assez d'avocats et de ressources financières pour mener ces dossiers devant le tribunal des droits de la personne.
Monsieur Fonomi, je suis vraiment surpris de ce que vous venez de dire, parce que moi j'ai des plaignants, nous sommes un organisme Mouvement Action Justice, des plaignants qui sont insatisfaits du travail de la commission des droits de la personne, et vous disiez que ce n'est pas le personnel, ce n'est pas vraiment la commission comme telle, mais c'est des ressources, c'est-à-dire si on arrive à donner des ressources nécessaires et un budget nécessaire et tout, la commission normalement va remplir sa tâche comme il faut. Et ça, pensez-vous pas qu'il n'y a pas une...
Non, quand je parle des ressources, il faut distinguer d'une part des ressources quantitatives,
voilà.
Le budget, oui, bien sûr. Si vous avez 20 enquêteurs, alors que si vous aurez pu avoir 60 enquêteurs, vous allez voir que le travail va se faire plus rapidement. Deuxièmement, les ressources pour faire la formation et puis le développement des compétences.
Voilà, l'efficacité aussi.
Il y a des gens qui nous disent que, écoutez, on n'a jamais été formé sur cette question.
Voilà.
C'est un problème.
Oui.
Il y a aussi toute la question, quand on parle de développement de compétences, parce qu'il y a une nécessité d'avoir les compétences nécessaires, n'est-ce pas? Et sur cette question, on voit qu'il y a parfois des lacunes dans la manière dont la commission fait enquête sur une plainte ou analyse une plainte et rend une décision. Parce que parfois, on voit que on a eu des dossiers où l'enquêteur n'a même pas compris l'objet de la plainte.
Exactement, c'est ça.
Surtout de plus plus en plus, on parle maintenant de ce qu'on appelle la discrimination systémique, c'est-à-dire non intentionnelle, institutionnalisée, avec des pratiques institutionnalisées dans les mœurs, dans les coutumes. Il faut avoir une analyse, une optique, une perspective d'analyse très différente. Et là-dessus, il y a beaucoup de carences et de défailles dans le travail de la Commission. Écoutez, depuis la création du Tribunal des droits de la personne en 1990, il n'y a jamais eu un cas de racisme systémique porté par la Commission devant le Tribunal des droits de la personne. La Commission, par exemple, est saisie de nombreuses plaintes portant sur l'impact discriminatoire des disciplines et des sanctions en milieu scolaire à l'endroit des étudiants immigrants ou racisés ou des étudiants avec des handicaps. La Commission, depuis quelques années, n'a même pas pu adopter des lignes directrices pour baliser et définir ce problème. Alors qu'elle continue à recevoir ce genre de plaintes qu'elle rejette très régulièrement. Donc il y a un problème de compétence. Et une partie de ce problème-là a trait au manque de ressources financières.
Tout à fait aussi, parce que, M. Fonini, si vous me permettez, nous avons constaté que, par exemple, dans les enquêteurs dans l'SPB1, par exemple, il y a une négligence. Les enquêteurs, c'est-à-dire qu'on a une partie d'enquêteurs qui sont négligents vis-à-vis des dossiers où ça prend un an, deux ans devant la cour et tout, et finalement, les gens sont innocents et tout. On reproche un petit peu ce phénomène-là. Et je me demande aussi si ce cas-là, on le trouve dans la Commission des droits de la personne. C'est-à-dire, dans le personnel lui-même, il y a des gens qui ne sont pas spécialisés fortement ou forcément et qui ne font pas l'enquête, c'est-à-dire qui ne prennent pas l'enquête comme il faut. Tu comprends ? Il y a une sorte de... Comment je peux dire ça ? Une incapacité peut-être pour ne pas dire négligence ?
Il n'y a aucun organisme qui ne soit infaillible ou vraiment perfectionniste dans son fonctionnement. Il y a bien sûr toujours des carences, des failles, des problèmes dans le système de fonctionnement, mais je préfère parler au plan systémique. Ouais. Au plan systémique, c'est entre autres, quand la Commission des droits de la personne rend une mauvaise décision à cause des erreurs de l'enquête.
Oui, c'est ça.
Dans la charte, il n'y a pas de mécanisme pour une révision.
Okay. Et c'est ça qui bloque le...
Et c'est ça qui bloque. Et puis le citoyen ordinaire, surtout au Québec, on n'a pas encore beaucoup de cette culture juridique populaire. Le citoyen ordinaire ne peut pas se permettre de payer 5 ou 7 000 $ pour aller à la Cour supérieure pour un contrôle judiciaire, pour forcer la Commission de refaire son travail. Parce que ça coûte de l'argent. Deuxième... Oui.
Donc, mes chers auditeurs, chers auditeurs, donc nous allons faire une pause musicale et nous écouterons à la suite de notre entrevue avec M. Fonimi, directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales, le CRAR.
Porto Rican, bien intégré quasiment new-yorkais, dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solo en guerre de mon rêve américain,
moi plus jamais
flamme des tyrans.
Cela où dit jamais ni le courant.
Devenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Cher à canon, deux étrangers au fond du monde si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Il y a d'autres aussi problèmes dans l'enquête de la commission qu'on a remarqué avec les dossiers au fil des ans. Premièrement, on a remarqué la tendance de la commission de ne pas recueillir les témoignages des témoins de la victime. Mais entre-temps, la commission peut recueillir de nombreux témoignages des témoins de la partie mise en cause. Donc l'équilibre n'est pas là. L'autre chose aussi, c'est que la commission a souvent tendance à ne pas bien décrire non seulement la victime, mais aussi les conditions de discrimination dans lesquelles elle vit. On a un cas où un jeune noir, visiblement handicapé, physiquement handicapé et mentalement handicapé, okay, parce qu'il marche, il boite quand il marche. Dans, quand on lit le rapport, parce qu'en fin de compte, ce sont les commissaires qui lisent les rapports d'enquête pour prendre une décision. Quand on lit le rapport,
on voit un corps qui.
On ne sait même pas que le jeune boite.
Oui.
Et quand parce que visuel, l'identification visuelle du jeune par les agents de sécurité dépend beaucoup dans ce cas-là.
Oui, tout à fait.
La commission ne décrit même pas. Donc il y a des failles là-dedans. Surtout, vous savez, dans les questions de racisme systémique, la commission, on est convaincu que la commission souvent ne sait pas comment analyser ce genre de problème.
Et ça, c'est volontaire, M. Fonomi, ou c'est involontaire, ou c'est dû à quoi?
C'est volontaire dans le sens qu'au fil des ans, si la commission est consciente qu'il y a une nécessité d'avoir des lignes directrices pour enquêter sur les plaintes de racisme systémique, mais qu'elle ne l'a pas fait malgré les problèmes évidents, là, on peut parler d'une certaine volonté de ne pas s'attaquer aux problèmes de racisme systémique. Maintenant, parce que c'est systémique, parfois c'est dans le défaut des opérations quotidiennes. Elle n'a pas le temps, elle est assise. Vous savez, parce que le racisme, ce n'est pas le seul motif. Hein. Je crois que le handicap et la pauvreté et la discrimination fondée sur l'âge deviennent de plus en plus des problèmes pressants pour le Québec à cause du vieillissement de la population. Donc la commission est tiraillée partout et quand elle n'a pas les ressources nécessaires confiées par le législateur, la commission ne peut pas faire son travail comme il faut. Et ceci me donne l'opportunité de parler du fait que les législateurs québécois, des deux côtés de la Chambre, ne semblent pas s'intéresser beaucoup aux normes, aux questions des droits de la personne ici au Québec, parce que nous avons des cas où on a porté année après année auprès tant des ministres que des députés de l'opposition. Par exemple, le délai de 3 à 4 ans pour un cas très simple de discrimination, et personne n'a rien fait.
Oui.
On a des belles déclarations. Oui, nous avons des meilleurs services de protection des droits de personnes. La commission est très progressiste. La charte est vraiment révolutionnaire. Mais dans la pratique quotidienne, si le législateur que ce soit le ministre de la Justice ou en Chambre, en commission parlementaire, si on, le législateur ne demande pas la question pourquoi ça vous prend 3 à 4 ans pour enquêter sur une plainte qui semble très simple, on va jamais avoir de réforme pour assurer une accessibilité à la justice de manière aussi efficace qu'on le veuille au Québec.
Mais, M. Fenouille, la nécessité de l'existence de la Commission des droits de la personne, quel est votre avis?
La Commission des droits de la personne et, par extension, le Tribunal des droits de la personne font partie de ce qu'on appelle le régime fondamentale de protection des droits de la personne au Québec. Ce n'est pas une question de volonté législative, mais c'est une question aussi de l'obligation internationale du Canada et indirectement du Québec de se doter de mécanismes efficaces et accessibles de protection des droits de la personne tels que définis selon les conventions internationales différentes. Donc, vous savez qu'en Ontario et en Colombie-Britannique, on a aboli les commissions des droits de la personne de cette province pour favoriser ce qu'on appelle l'accès direct au tribunal, sauf que les gens ordinaires n'ont pas les moyens financiers pour avoir accès direct au tribunal. Ça peut coûter entre 5 et 10 000 $ pour aller devant un tribunal.
Ça veut dire, vous disiez, on va dire, le citoyen ordinaire ne peut jamais se défendre.
Il peut se défendre, mais il perd souvent, parce que souvent, quand les gens ne peuvent pas se permettre un avocat, on y va tout seul.
Oui.
Et souvent, même sur les aspects procéduraux qu'on perd, on n'a même pas le temps d'aller sur le fond de la question. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer que la commission de la personne reste, en faisant partie de nos institutions démocratiques fondamentales, mais il faut s'assurer en même temps qu'elle soit efficace, surtout dans le traitement des plaintes et dans les enquêtes. Et que, croyez-moi, quand ça vous prend 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour terminer un dossier d'enquête et aller devant le tribunal et prendre peut-être un an de plus, vous perdez beaucoup de gens en cours de route parce que les gens sont découragés. Et surtout les personnes âgées. On a des cas où des témoins meurent de vieillesse, ouais. Et la commission n'a jamais eu le temps de les interroger. Donc imaginez un peu l'injustice que vivent un bon nombre de personnes.
M. Fenouille, avez-vous un message à passer, premièrement, peut-être à la commission dans ta personne, pourquoi pas, et aux citoyens aujourd'hui?
En fait, le premier message, c'est aux citoyens, parce que, en fin de compte, c'est le peuple qui décide. Il faut que le peuple soit conscient non seulement de ses droits et libertés de la personne, des uns et des autres, mais aussi conscient de la nécessité de respecter nos obligations internationales. Parce que c'est un contrat moral, c'est un contrat politique, un contrat juridique entre citoyens et gouvernement, oui, et avec la communauté internationale. La deuxième chose, c'est qu'il est temps que les législateurs des deux côtés de la Chambre regardent et les problèmes de la Commission et accordent à cette Commission tous les moyens, y compris les ressources humaines et financières, nécessaires pour remplir son mandat efficacement et correctement. Et dernièrement, je crois que le message, c'est qu'il est temps aussi que les tribunaux, cour du Québec, les tribunaux, même cour de petites créances, où les juges sont de plus en plus appelés à conjuguer avec des dossiers d'ordre social, que la magistrature soit mieux informée des enjeux des droits à personne. Parce que depuis l'adoption de la Charte canadienne, les tribunaux jouent un rôle très, très fondamental dans la résolution des conflits d'ordre de discrimination et de harcèlement.
Mais au fond de tout ça, peut-être une dernière phrase. Est-ce que pouvez-vous dire à tout le monde, aux victimes surtout, de ne pas baisser les bras?
Ça c'est naturel. Nous, écoutez, je crois que nous avons toujours des gens qui croient à leur cause et qui sont déterminés à poursuivre. Ça, nous, on les soutient jusqu'au bout. Peut-être le message que je voudrais donner, c'est surtout aux parents de jeunes, de mineurs en bas des 18 ans, même de jeunes adultes. Il faut que les parents assument leur responsabilité parentale pour ne pas banaliser les doléances de leurs jeunes et de les appuyer dans la démarche de revendication des droits de la personne.
Merci, M. Fonimi.
Okay.
Voilà, donc, c'était le témoignage de M. Fonimi, directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales, le CRAR. À propos de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, nous attendons vos appels, chers citoyens, pour participer à une nouvelle émission qui traite du sujet. Appelez-nous au 514-273-4302. Donc, je répète, appelez-nous au 514-273-4302. Votre témoignage sera apprécié. Donc, nous allons faire une pause musicale et nous revenons avec le mot de fin de cette émission.
Toi qui me croyais vider sans cœur, ton visage je le connais par cœur. J'ai pas osé car j'ai eu peur de le dire, m'aurait porté malheur. T'es mon pire et t'es mon meilleur. Notre histoire est assez amère. Je porte le poids de mes erreurs. Toi ici, moi ailleurs. C'est loin de toi, je t'oublie pas. Où je vais, je te vois. C'est comme si t'étais là, près de moi. Je t'ai dans le haut et dis-moi, je pense.
Voilà, donc, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission et j'aimerais remercier Monsieur Fonimi, directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales, le CRAR, d'avoir accepté notre invitation et de cet éclairage fortement apprécié. Merci à notre technicien de son, Madame Mario Longuet. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cette antenne afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et à moi, je vous dis à vendredi prochain à la même heure. Donc voilà, à bientôt.
Lorsque je l'ai épousé, je voyais en lui un énorme potentiel. Mais maintenant, je suis inquiète. Je pense qu'il boit beaucoup trop et il se fâche quand je lui fais la remarque. Notre médecin de famille m'a suggéré d'essayer les groupes familiaux à l'ANO. Là-bas, j'ai trouvé de l'aide et je commence à voir ma situation sous un autre jour. Si vous êtes préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne, vous pourriez trouver de l'aide dans une réunion des groupes familiaux à l'ANO, ici, dans notre localité. Composez le 1-888-4-ALANO ou visitez alanofamilygroups.org.
Il
on dirait qu'il est familier avec le cinéma.
Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé. Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent en être partagées.
Oh, ah, ben là, tu fais une surprise!
C'est quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste.
Non, mais vous avez failli mourir.
Oui, oui. Une heure de cinéma. Derrière l'image, avec Francine Orando, Pierre Pageot et Guy Ménard. Vendredi, 15h.
L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville présente Tant Longtemps.
Tant Longtemps, une émission de musique rétro agrémentée d'histoires passionnantes sur la musique haïtienne. Des anecdotes intéressantes sur la vie des compositeurs, des musiciens qui ont marqué le temps.
Tant Longtemps, animé par Brady Donissin et son équipe, chaque dimanche soir de 9h à 10h sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Tant Longtemps, un rendez-vous à ne pas manquer.
Vous avez une soif inaltérable de savoir ? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.